VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Raissa Girondin avec vous en direct de Washington pour Le Monde Aujourd'hui, édition de 19h30 en temps universel. La même heure à Dakar, Conakry, Abidjan. Bonsoir, voici les titres. En République démocratique du Congo, les autorités traquent les faux magistrats. Plus de 200 individus ne remplissent pas les conditions requises. En France, Nicolas Sarkozy placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur le financement libyen de sa campagne de 2007.
Ça prouve bien évidemment que nul n'est au-dessus des lois. Que vous ayez été ancien président de la République ou pas, la justice, lorsqu'elle passe, elle n'épargne personne.
Le président américain Donald Trump reçoit à la Maison-Blanche le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman. Et toujours aux États-Unis, une série d'attaques à la bombe inquiète le Texas avec un cinquième colis piégé en 10 jours. Dans la Minute Éco, l'ABAD va appuyer un projet routier entre le Rwanda et l'Ouganda. Et réunion à Zurich pour sauver le football ivoirien en crise dans la page sport. Mais tout d'abord, le journal. En République démocratique du Congo, les autorités ont identifié au sein de la magistrature plus de 200 individus ne remplissant pas les conditions pour exercer cette profession. L'annonce a été faite par Alexis Twambe Mwamba, ministre de la Justice. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
D'après l'un des enquêteurs, une commission d'enquête a examiné les qualifications et la régularité des conditions de recrutement des magistrats du siège et du parquet. Environ 4000 magistrats civils et militaires sont actuellement en fonction dans le pays. Plus de 200 individus vont devoir être extirpés du corps de la magistrature pour n'y maintenir que des vrais magistrats, a affirmé Alexis Tambwe Mwamba, ministre de la Justice. Il a expliqué que certaines personnes concernées sont déjà aux arrêts pour les cas les plus flagrants, ajoutant que d'autres ont déserté leur bureau. De nombreux justiciables et des ONG de défense des droits de l'homme accusent souvent la justice congolaise d'être corrompue. En octobre dernier, le garde des Sceaux a fustigé la lenteur dans l'administration de la justice. Il a aussi dénoncé les arrestations et les détentions transformées en instruments d'intimidation et de terreur contre les inculpés pour les amener à corrompre les juges.
Et toujours en République démocratique du Congo, l'armée a déclaré avoir tué 4 assaillants responsables des massacres des civils en Ituri. Dans le nord-est du pays, l'armée qui organise des patrouilles motorisées dans la zone n'a pas voulu donner de l'appartenance communautaire de ses assaillants, mais a sollicité la collaboration de la population pour démanteler d'autres bastions. Pour rappel, depuis décembre, plus de 120 personnes ont été tuées depuis la reprise des violences entre les éleveurs Emma et agriculteurs Lindou en Ituri. Au Tchad, les fonctionnaires ont repris le travail après une grève de 7 semaines contre des mesures d'austérité imposées par le gouvernement en début d'année. Toutes les structures sanitaires de N'Djamena sont opérationnelles et les activités dans différents ministères ont repris. Cependant, la reprise est plus timide dans certains établissements scolaires. Au Cameroun, un haut fonctionnaire de l'administration enlevé samedi dans le sud-ouest anglophone a été libéré hier. La zone anglophone est en proie à des tensions et il y a eu d'autres enlèvements. 2 Tunisiens travaillant sur un chantier ont été enlevés le 15 mars par un groupe armé dans la même région. En France, l'ex-président Nicolas Sarkozy a été placé en garde à vue aujourd'hui dans le cadre de l'enquête sur des soupçons de financement libyen lors de sa campagne présidentielle de 2007. Les précisions avec Dili Dico.
Les policiers anticorruption qui ont interpellé Nicolas Sarkozy entendaient également en audition libre l'un de ses anciens proches, l'ex-ministre Brice Hortefeux. C'est la première fois que l'ancien chef de l'État français est interrogé dans cette procédure instruite par les juges financiers depuis 2013. Au cœur de ce dossier sur de possibles financements libyens pour sa campagne de 2007 figurent des accusations formulées par l'homme d'affaires franco-libanais Ziad Takieddine et d'ex-dignitaires libyens. Fin 2016, Takieddine avait affirmé avoir remis 5 millions d'euros d'argent libyen au camp Sarkozy, peu de temps avant son élection à la présidence. Ces accusations ont été cependant démenties par d'autres personnalités libyennes et contestées par Nicolas Sarkozy. À l'issue de la garde à vue, pouvant durer jusqu'à 48 heures, Nicolas Sarkozy peut être remis en liberté, présenté à un juge en vue d'une éventuelle inculpation ou convoqué ultérieurement.
Au Mali, le Premier ministre Soumelou Boubey Maïga a annoncé qu'il va effectuer cette semaine une tournée dans des localités du centre et du nord du pays, dont Kidal, sous contrôle de l'ex-rébellion. C'est une première depuis des combats en 2014, pendant une visite de Moussa Mara, le Premier ministre de l'époque, qui avait abouti à une lourde défaite de l'armée malienne face aux rebelles Touareg. En Tunisie, le président Béji Saïd Essebsi a évoqué une réforme du mode de scrutin pour les élections prévues pour décembre 2019, soulignant qu'il était nonagénaire, 91 ans depuis novembre. Essebsi a laissé planer le doute sur sa propre candidature à la présidentielle. Les Nations Unies, l'Union Européenne, l'Allemagne, la France et les États-Unis invitent le pouvoir et l'opposition du Togo à une discussion de fond sur les réformes constitutionnelles et électorales en vue de parvenir à un accord. Ils demandent aux protagonistes de la crise qui secoue le Togo depuis plus de 6 mois de dépasser leur position de principe dans l'intérêt de tous les Togolais. Le dialogue entamé le 19 février sous la supervision du président ghanéen Nana Akufo-Addo a été aussitôt suspendu après la deuxième séance. Point de discorde, le retour à la constitution de 1992 qui implique une limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels. En Afrique du Sud, Tom Moyan, le patron du fisc, a été suspendu avec effet immédiat par le nouveau président Cyril Ramaphosa. Le chef de l'État l'accuse d'être responsable de la détérioration de l'administration fiscale. Il affirme que Tom Moyan a couvert une affaire de corruption et a potentiellement mis en péril l'intégrité du service des impôts. Jacob Zuma est accusé de ne pas avoir correctement payé ses impôts et d'avoir cherché à remettre en cause l'indépendance du service des impôts. Il rejette toute allégation.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Donald Trump reçoit ce mardi le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman à la Maison Blanche. Le jeune prince cherche un soutien de Washington sur les réformes qu'il a engagées et sur l'Iran. Abdourahman Dia.
Le ministre saoudien des Affaires étrangères Adel Al-Joubert a donné le ton, estimant que les deux alliés, Riyad et Washington, ont des visions pratiquement identiques sur le Yémen, l'Afghanistan et l'Iran. Pour le chef de la diplomatie saoudienne, il y a deux visions antagonistes dans la région, celle de la lumière portée par le royaume sunnite et la vision des ténèbres poussée par l'Iran chiite. Il a critiqué ce qu'il appelle les défauts de l'accord sur le nucléaire iranien, dont le président américain menace de se retirer. Le nouvel homme fort de Riyad, âgé de 32 ans, va prolonger sa visite aux États-Unis avec une longue tournée de près de 3 semaines dans plusieurs villes américaines. Après Washington, il ira samedi à Boston et à New York, alors que se profile l'entrée en bourse très convoitée du groupe public pétrolier saoudien Aramco. Il s'entretiendra aussi avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, avant de se rendre sur la côte ouest des États-Unis auprès des géants des nouvelles technologies comme Google et Apple. Il rencontrera aussi sur place des professionnels du divertissement, mais aussi de la défense.
Toujours aux États-Unis, nouvelle explosion d'un colis ce matin dans un centre de distribution de FedEx à Shirts, dans la région de San Antonio, au Texas. Un employé a été blessé. Les précisions avec Blanche Sanou.
Alors que la police est toujours à la recherche d'un poseur de bombes en série à Austin, un autre engin a explosé dans un centre de tri de FedEx. Selon le Washington Post, le colis était destiné à une adresse d'Austin où 4 explosions avaient fait 2 morts. La police de la ville de Shields, où s'est produite l'explosion, a indiqué sur sa page Facebook que le colis avait explosé dans la partie où se fait le tri et qu'une personne a été soignée sur place avant de repartir. Elle n'a pas précisé la destination du colis. Pour l'heure, les forces de l'ordre traquent le poseur de bombes sans succès. Les bombes dissimulées dans des paquets étaient jusque-là déposées directement devant les habitations des victimes. La police avait d'abord évoqué la piste de crime raciste. Après les 3 premières explosions, toutes les victimes étant noires ou hispaniques, mais la 4e explosion a blessé 2 hommes blancs, faisant penser aux enquêteurs que les cibles étaient visées de manière aléatoire.
Et par ailleurs, la Maison-Blanche a affirmé qu'il n'existait aucun lien apparent avec le terrorisme dans ces explosions. Nous suivons la situation de près. Nous sommes déterminés à traîner les auteurs de ces actes odieux en justice, a souligné Sarah Sanders, porte-parole de Donald Trump. Et toujours aux États-Unis, l'auteur de la fusillade dans le Maryland est décédé, selon le shérif Tim Cameron. Le tireur avait blessé 2 personnes dans une fusillade dans un lycée au sud-est de la capitale américaine. Pour rappel, une grande manifestation est prévue samedi 24 mars dans la capitale pour exiger une meilleure régulation des ventes d'armes. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. C'est l'heure de la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eric Manirakiza.
La BAD va appuyer un projet routier de 208 km pour relier le Rwanda à l'Ouganda. C'est un financement de plus de 93 millions de dollars et représente 51% du coût total, estimé à 376,5 millions de dollars. Il est aussi prévu la construction de 2 marchés transfrontaliers à Kagitumba et Arusumo, la réhabilitation de 10 centres de collecte de lait et de 10 forages. Le projet assurera également la formation de 1600 femmes venant de cette association et facilitera la plantation de 41 500 arbres. La BAD soutient le Rwanda au niveau des infrastructures de transport, l'énergie, l'eau, les compétences et le développement du secteur privé. Le gouvernement du Cap-Vert a mis son veto à la construction d'un centre africain de formation avec un statut de zone franche. Le coût de ce projet avoisine les 125 millions de dollars sur une superficie de 2,5 km². Le gouvernement a refusé de fournir le soutien institutionnel pour promouvoir et mobiliser le financement du projet. En Égypte, un tribunal administratif du Caire a interdit les services de voitures de transport avec chauffeurs Ouba et Karim. Les chauffeurs de taxi avaient manifesté contre les 2 compagnies et accusé les chauffeurs de VTC de ne pas payer les droits pour l'utilisation de leurs véhicules de transport.
Et une musique d'ambiance qui annonce le sport. Bonsoir Nicolas Pinault.
Bonsoir Aïssa, bonsoir à tous.
Réunion à Zurich pour sauver le football ivoirien en crise.
Et oui, les différents acteurs de la crise qui secouent le football ivoirien se retrouvent ce mardi à Zurich sur invitation de la FIFA, cette dernière souhaitant discuter des mesures à prendre pour surmonter la situation actuelle. Les délégations, que ce soit celle de la Fédération ivoirienne de football, des dirigeants des clubs, doivent être représentées par 3 membres chacune. On se souvient que des clubs et plusieurs groupements d'intérêt ont réclamé le 29 décembre dernier une assemblée générale extraordinaire pour réclamer le départ du président de la Fédération ivoirienne, Augustin Sidi Diallo, à la suite de la non-qualification de la Côte d'Ivoire au Mondial 2018 qui aura lieu cet été en Russie.
Nouveau report du procès d'Issa Hayatou au Caire.
Eh oui, la Cour économique du Caire a reporté au 16 avril le procès d'Issa Hayatou et d'Hicham El Amrani. L'ex-président de la Confédération africaine de football et l'ancien secrétaire général de la CAF sont accusés par la justice égyptienne d'avoir violé les règles locales de la concurrence en signant un contrat avec la société française Lagardère Sport portant sur la gestion des droits marketing et médias du foot africain, un contrat gigantesque d'1 milliard de dollars garanti avec la société française en échange de la gestion des droits marketing et médias du foot africain jusqu'en 2028.
Puis les matchs amicaux pour les équipes africaines.
Certaines équipes nationales du continent qui préparent les suites des éliminatoires pour la CAN 2019, tandis que l'Égypte, le Maroc, le Nigeria, le Sénégal et la Tunisie sont sur le pont en vue de la Coupe du Monde en Russie. À suivre ce mercredi, Togo-Madagascar et jeudi, Algérie-Tanzanie, Burkina Faso-Guinée-Bissau, Zambie-Zimbabwe, Afrique du Sud-Angola, Thaïlande-Gabon et Macao face à Maurice.
Et enfin, la NBA, le championnat de basket nord-américain.
LeBron James a à nouveau su faire la différence en faveur de Cleveland face à Milwaukee, 124 à 117. Les Spurs de San Antonio se sont offert un peu de marge pour les playoffs face à Golden State, victoire 89 à 75. Dans les autres matchs, les Pacers de l'Indiana se sont imposés face aux Lakers, 110 à 100. Philadelphie qui l'emporte sur Charlotte, 108 à 94. Enfin, Miami a fait durer le suspense jusqu'au bout avec une double prolongation avant de s'imposer face à Memphis, 149 à 141.
Merci Nicolas Pinault.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez toujours Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. En France, la campagne présidentielle victorieuse de Nicolas Sarkozy en 2007 a-t-elle profité des financements libyens ? L'ex-chef de l'État français a été placé en garde à vue, une garde à vue qui peut durer jusqu'à 48 heures. Il peut être remis en liberté, présenté à un juge en vue d'une éventuelle mise en examen ou convoqué ultérieurement. Pour en parler, John Lyndon a joint à Bruxelles Henri-Désiré Nzouzi, expert en relations internationales.
Ça prouve bien évidemment que nul n'est au-dessus des lois. Que vous ayez été ancien président de la République ou pas, la justice, lorsqu'elle passe, elle n'épargne personne. Nous avons le précédent de Jacques Chirac, qui lui aussi avait été rattrapé par la justice à la suite de plusieurs affaires le concernant. On a bien compris que la justice avait déjà commencé à s'intéresser à ce dossier sulfureux depuis maintenant plusieurs années, dès la victoire de François Hollande d'ailleurs, dès que Sarkozy n'était plus en fonction. La procédure étant longue, bien évidemment, là il s'agit d'un aboutissement à la lumière des derniers éléments apparus dans le dossier. Donc c'est un signal très fort à l'endroit, je dirais, de l'opinion publique qui renouvelle évidemment cette exigence de justice à la fois pour tous et surtout le fait que personne ne peut se placer au-dessus de la loi.
Cela veut-il dire qu'on peut envisager un scénario où le président Nicolas Sarkozy est envoyé en prison ?
Non, c'est peu probable compte tenu du statut qui était le sien d'ancien chef d'État. Je pense plutôt qu'il pourrait connaître le sort qu'avait à l'époque subi notamment Alain Juppé, qui avait été condamné avec sursis. C'est beaucoup plus probable, me semble-t-il, car là, ce serait un verrou supplémentaire qui sauterait, mais je ne suis pas certain que la justice soit disposée à aller en tout cas aussi loin. Mais en tout état de cause, les accusations concernent Nicolas Sarkozy, en tout cas dans ce dossier, si elles devaient déboucher sur condamnation, eh bien, ce serait un signal très fort à l'endroit de ceux qui s'aventureraient à bénéficier de soutien extérieur dans le cadre d'une campagne électorale.
Justement, des présidents occidentaux qui bénéficient des financements des chefs d'État africains, quel message cela envoie en Afrique ?
C'est un très mauvais signal, bien évidemment. D'un côté, vous avez ceux qui dénoncent l'ingérence d'une certaine France-Afrique dans les affaires intérieures des États, et de l'autre, vous avez des chefs d'État qui, soucieux peut-être de préserver la pertinence de leur lien avec cette même France, mettraient la main à la poche pour le soutenir. Ça n'a aucun sens, et cela relève bien évidemment de la complicité, et puis surtout du fait que ce ne sont pas les intérêts bien compris des populations qui sont prises en considération, mais plutôt les intérêts bien compris d'une petite élite affairiste, ce qui, de mon point de vue, justifie amplement le rejet aujourd'hui que l'on peut avoir vis-à-vis de certains régimes en Afrique.
C'était Henri-Désiré Nzouzi, expert en relations internationales. Washington Forum braque les projecteurs sur le sommet de l'Union africaine. Les dirigeants africains se réunissent ce mercredi à Kigali, au Rwanda, pour signer l'accord cadre de la zone de libre-échange continentale, un projet ambitieux qui semble ne pas faire l'unanimité. Quel est l'enjeu de cet accord ? Sera-t-il endossé par un grand nombre d'États africains ? Comment tirer parti de la force des opérateurs économiques du continent pour favoriser l'intégration panafricaine ? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h en temps universel avec Raissa Girondin. Après plusieurs années de crise, la Centrafrique est en quête de stabilité politique. Toutes les institutions du pays ont bouclé un renforcement de capacité sur la notion de bonne gouvernance. C'est une initiative soutenue par l'Organisation internationale de la francophonie. Sur place à Bangui, Freeman Sipila.
La rencontre est dénommée « retraite de haut niveau » et a connu la participation des principaux cadres du pays, ministres, anciens ministres, chefs des institutions de l'État, mais aussi cadres de l'espace francophone. Faustin Archange Touadéra, président centrafricain.
L'histoire des nations comporte des épreuves et des événements parfois douloureux. et la République centrafricaine n'en a pas été épargnée. Elle a traversé un moment sombre de son histoire, avec les douloureux événements qui ont suivi le coup d'État du 24 mars 2013 et qui ont mis à mal la paix, l'unité nationale, le vivre ensemble et surtout le fonctionnement des institutions républicaines. Le choix du thème principal de cette retraite de haut niveau, stabilité institutionnelle et le redressement national, cadre bien avec ces défis qui s'opposent à notre pays, entre autres la restauration de l'autorité de l'État à travers des institutions nationales solides, stables et complémentaires.
Trois jours d'échanges ont permis aux envoyés spéciaux de la francophonie de partager leurs expériences aux décideurs centrafricains. Le message clé, la cohésion entre les institutions de l'État et le respect des rôles. Désiré Kadra Ouédraogo, ancien Premier ministre du Burkina Faso.
Les relations interinstitutionnelles doivent se dérouler à l'aune du respect mutuel des prérogatives de chaque institution, mais aussi de la concertation et de l'information permanente. Le fait que les pouvoirs soient séparés et indépendants ne signifie pas qu'ils doivent être cloisonnés et qu'il ne doit pas y avoir de concertation entre eux. Cette concertation doit se faire de façon informelle et discrète.
Dans son intervention, Louis Michel, ancien ministre de la coopération de la Belgique, a insisté sur l'intérêt public.
C'est le président Bouteflika, il y a bien 15 ans maintenant, qui me disait, jeune ministre ou tout nouveau ministre, je lui parlais des droits humains en Algérie. Et il a eu cette phrase, un homme très cultivé, il a eu cette phrase qui m'a un peu sidéré, mais qui dans le fond est pleine de bon sens. Mon cher ami, c'est très bien de me parler des droits humains, mais je vais parler des droits humains à mon peuple et aux citoyens quand j'aurai réussi à leur faire manger à leur faim. Bon, je veux simplement dire par là qu'on peut évidemment tenir des discours de transparence, tous les beaux discours qu'on veut, et je suis évidemment un tenant de ça, mais il faut aussi simplement générer, garantir la survie minimale au peuple.
Cette rencontre de haut niveau devrait permettre la refondation des institutions centrafricaines et assurer une stabilité politique. Freeman Sipila Bongi, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Et l'Union africaine établit les fondations d'une zone de libre-échange continentale qui pourrait devenir la plus vaste zone de libre-échange au monde. Quelques 27 chefs d'État sont attendus à Kigali pour signer l'accord instituant la création de cette zone. Alors, quels sont les avantages sur les économies des pays membres? Comment rendre opérationnelle la zone de libre-échange continentale? Eric Manirakiza a joint à Dakar un spécialiste de l'Union africaine à l'OCDE. Ibrahim Akan.
Vraiment une étape non seulement importante, mais une étape critique. Si l'on veut vraiment que l'Afrique puisse avoir sa place dans l'économie du 21e siècle.
Et quelles sont les retombées positives sur les économies des pays membres?
Premièrement, booster le commerce intra-africain. D'après les chiffres que l'on a à l'heure actuelle, 70% du commerce mondial actuel est occupé par l'Europe. L'Amérique du Nord à peu près 54% et l'Afrique, le commerce intra-africain n'est que de 16%. Donc 84% de notre commerce est fait avec les pays occidentaux. Et c'est cette tendance qu'on veut renverser. Au moins avoir la moitié du commerce fait entre les États africains. La deuxième chose, c'est que quand on fait du commerce entre pays africains, on développe les infrastructures. On fait en sorte qu'il y ait des circuits commerciaux, qu'il y ait des routes, qu'il y ait des ponts, que le transport aérien intra-africain soit bénéfique mais aussi utile pour les Africains. Et quand ce commerce intra-africain se développe, ce sont les exportations des États africains qui se développent. Les chiffres que l'on a sont effarants. 3% des exportations dans le monde sont africaines, seulement 3%, alors que nous sommes un des continents les plus riches de cette planète. En essayant de développer cela, on peut amener les économies africaines à prendre une autre dimension.
Comment rendre opérationnelle cette zone de libre-échange quand on sait que les zones d'intégration régionale ne fonctionnent pas correctement?
Tout le monde sait quels sont les goulots d'étranglement au niveau des communautés économiques régionales. D'abord, par leur nombre, elles sont nombreuses. Pour ne prendre que ma région, qui est l'Afrique de l'Ouest, on a pratiquement la CEDEAO, on a l'Union économique et monétaire de l'Union africaine, on a la communauté du Mano River, on a le Liptapo-Gourma. Donc il faudrait que dans ce processus aussi, qu'on essaie de rationaliser les communautés économiques, d'une part. D'autre part, qu'il y ait de la cohérence dans le fonctionnement de ces communautés économiques. En Afrique de l'Ouest, pour vous donner encore un bel exemple, on a la zone France CFA, on a une autre zone qui est libre où vous avez pratiquement 5 monnaies nationales. Pour que les économies fonctionnent bien, pour qu'il y ait des échanges, il faudrait que les États aient la même monnaie régionale d'abord et ensuite une monnaie continentale. L'exemple de l'euro en Europe est vraiment un bel exemple.
C'était Ibrahima Kan, spécialiste de l'Union africaine à l'OSIWA.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole à nos auditeurs. En direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 26 33. C'est au 001 202 205 26 33. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Ainsi va le monde d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Josèle Morissin à la mise en onde, Bill Barber à la console, Raissa Gironda à la présentation. On reste connectés sur Facebook, sur notre site internet voafrique.com pour plus d'actualités. Excellente suite de programme.
Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Alors que l'écrasante majorité de près de 100 000 hommes et femmes des forces onusiennes de maintien de la paix agissent avec honneur et intégrité, des actes de mauvaise conduite surviennent, y compris de cas d'exploitation sexuelle et d'abus contre les populations que les casques bleus sont censés protéger. Les pays d'origine des casques bleus ont l'ultime responsabilité d'enquêter, de documenter et de punir des cas de mauvaise conduite. Mais les chefs des unités déployées n'ont souvent pas les connaissances ou la capacité nécessaire pour enquêter au sujet des violations de la loi criminelle militaire. Ce n'est qu'à l'issue d'une enquête crédible que des actions disciplinaires appropriées peuvent être décidées contre les auteurs de ces abus. C'est pourquoi les États-Unis et les Nations Unies ont conjointement offert le tout premier cours de formation à l'intention des officiers de police judiciaire. Ce cours est un modèle de coopération interagence et internationale. Il a été parrainé par l'Initiative mondiale des opérations de paix, gérée par le Bureau des affaires politico-militaires du Département d'État américain, élaboré conjointement et mise en œuvre par le Département de la Défense des États-Unis et le Bureau des services de contrôle interne des Nations Unies. 26 officiers originaires de 11 pays partenaires ont pris part à cette formation dans le but d'améliorer l'efficacité des enquêtes sur la conduite et la discipline au sein des opérations onusiennes de maintien de la paix. L'objectif est d'améliorer l'habilité des officiers à enquêter sur les allégations d'exploitation sexuelle et les abus en approfondissant leur compréhension des normes onusiennes de conduite et des disciplines. Il s'agit aussi de former dans les techniques de base d'enquête et de collecte de preuves. Le cours sera dispensé à 3 reprises cette année en Afrique, en Amérique latine et dans la région Asie-Pacifique. De telles formations démontrent l'engagement des États-Unis à appuyer la politique de tolérance zéro des Nations Unies Le cours sera dispensé à 3 reprises cette année en Afrique, en Amérique latine et dans la région Asie-Pacifique. De telles formations démontrent l'engagement des États-Unis à appuyer la politique de tolérance zéro des Nations Unies contre l'exploitation sexuelle et les abus.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.